de quoi se faire du souci. Quant au devenir de l'homme sur la planète, à commencer par ce pays dans lequel je...
Madame Le Pen, dans sa stratégie de dédiabolisation, on vient à être quasiment un peu dans la mollesse. Hein. Je vous trouve, il faut vous reprendre des vitamines. Vous n'êtes pas assez dur, je trouve, là.
Il n'y a pas de différence entre l'islamisme et le terrorisme, si ce n'est une question de degré. Je partage votre avis.
Salut à toi, bonjour à toutes et à tous, vous l'avez peut-être reconnu, ce générique un peu bancal qui ouvre à 100 ans près. À 100 ans près, c'est une émission faite de briques et de brocs qui tente d'identifier et de comprendre les idées d'extrême droite qui sont parfois bien pernicieuses. L'émission souhaite également proposer des pistes pratiques pour ne pas tomber dans ce dangereux panneau. Pour cette première émission de l'année 2024, je vous propose d'aborder les liens entre les mouvements d'extrême droite et l'écologie. Et oui, on associe souvent l'écologie au mouvement de gauche, puisqu'elle est souvent un contrepoint du dogme économique dominant. La question est complexe, la rhétorique écolo va souvent dans le sens d'un ralentissement de la croissance économique, une régulation des logiques néolibérales, et c'est historiquement une grande thématique de la gauche. Pourtant, aujourd'hui, les questions écologistes sont reprises et considérées par l'ensemble du champ politique. Plus personne ne peut contester la réalité du réchauffement climatique après 50 ans d'observation scientifique et la multiplication des catastrophes naturelles. Les scientifiques du GIEC sont formels, la température moyenne du globe augmente, les glaciers et les banquises disparaissent, le niveau des océans augmente et notre mode de vie est responsable de ce changement brutal dans l'équilibre climatique. Mais face à ces constats, les pistes de réflexion écolo sont multiples. On entend tous les sons de cloche et on voit fleurir une myriade de discours différents. D'abord, on peut considérer l'exemple pathétique de la COP28, qui prétend réfléchir au destin écologique du monde sans sortir des énergies fossiles. Un événement majeur de l'année 2023, très bien résumé par Walidia sur France Inter.
En parlant de corruption, la COP28, ouais, toujours des transitions incroyables, ouais, bah je fais comme eux hein, les transitions, je m'en fous. La COP28 donc, là où les dirigeants arrivent en jet dans un pays avec une des empreintes carbone les plus élevées du monde, dans une ville construite par des esclaves dans le désert avec la clim même dans le ciel, pour un sommet sponsorisé par des banques et des constructeurs automobiles, le tout présidé par le PDG d'un énorme groupe pétrolier avec 2500 lobbyistes climato-sceptiques accrédités. Bah ouais, ouais. Et c'est eux qui nous promettent de sortir des énergies fossiles. C'est Elisabeth Lévy qui nous promet que maintenant elle va boire que de l'eau. C'est Fourniret qui dit c'était la dernière gamine, après j'arrête. Mais promis, cette fois, on sort des énergies fossiles. Ouais, mais il y a Total qui est en train de creuser plus de 400 puits de pétrole en Ouganda. Bon, on finit ça et après on sort des énergies fossiles.
Alors tout le monde a aujourd'hui sa petite vision de l'écologie. Ça commence avec ceux qui défendent l'énergie nucléaire comme étant une solution miraculeuse, soi-disant verte, qui nous permettrait de ne pas changer quoi que ce soit au capitalisme. Et ça va jusqu'au survivaliste solitaire, au fond de son bunker, qui habitue son corps à ne manger que des racines et des boîtes de thon, tout en buvant son pipi refiltré. Et puis, il y a le mouvement des colibris, et les ZAD, et les occupants du Larzac, et le mouvement climat, et les soulèvements de la Terre, et les partisans de la géo-ingénierie, et les néo-malthusiens, et les chasseurs, les militants véganes radicaux, les faucheurs d'OGM, et les brillants chimistes qui cherchent la recette de la viande artificielle pour que les pets de vaches n'empoisonnent plus l'atmosphère. Bref, il existe toute une galaxie de postures qui proposent autant de pistes pour sauver la planète, l'humanité, ou simplement son cul. Dans tout ce panel, on va essayer d'identifier ce qui relève d'un discours fascisant et on va y opposer une vision résolument antifasciste de l'écologie. L'écologie sans lutte des classes, c'est du jardinage. On doit cette phrase à Chico Mendes, un syndicaliste brésilien qui a été assassiné en 1988 pour avoir trop tenté de protéger la forêt amazonienne. J'aime beaucoup cette phrase. Pour cette émission, je me permets d'ajouter à la phrase de Chico Mendes que l'écologie, si elle n'est pas anticapitaliste, c'est du paysagisme.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Oh, il est temps de faire la part des choses. Contre le parfum d'une rose. shit que tu mets dans tes côtes. Va voir ailleurs, rien ne te retient. Va vite faire quelque chose de tes mains. Ne te retourne pas car ici tu n'as rien. Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de notre entraille.
Poésie zéro sur fréquence 7, la oeil de nos campagnes. Pour affermir notre besoin d'air pur, il est important de comprendre comment les mouvements d'extrême droite utilisent la question écologiste dans leur idéologie. Alors, dans les mouvements d'extrême droite modernes, les considérations écolo prennent différentes formes. D'un côté, il y a les réactionnaires classiques, ceux qui sont partisans de tous les vieux poncifs de l'extrême droite capitaliste et climato-sceptique. Des observateurs qualifient cette posture de carbo-fascisme à cause de la connivence qu'on constate entre les grands groupes pétroliers et les régimes d'extrême droite du XXIe siècle. Cette catégorie carbo-fasciste, c'est toute la branche des adorateurs de Trump, de l'ancien président brésilien Bolsonaro ou d'Éric Zemmour, qui est résolument réac sur les questions écolo. Et les autres, d'ailleurs. On y retrouve pêle-mêle les mecs qui se réunissent pour des concours du 4x4 le plus polluant, ceux qui harcèlent les cyclistes, ceux qui partent en Tanzanie pour braconner le lion ou le rhinocéros, ceux qui défrichent des centaines d'hectares de forêts amazoniennes en chassant les peuples indigènes. Si ces exemples ne sont pas directement fascistes, ils sont étroitement liés à une vision de la suprématie blanche, qui dispose librement des ressources du monde sans tolérer d'entraves et qui considère avoir un droit inaliénable à détruire les autres peuples pour leur profit exclusif. On peut noter quand même que l'extrême droite n'a pas le monopole de ce racisme environnemental. Le racisme environnemental, c'est une notion qui est née aux États-Unis dans les années 80 pour pointer le fait que les personnes racisées sont bien souvent les premières victimes de la pollution. Sur la chaîne YouTube Agi+, je trouvais un petit reportage qui résume bien l'histoire et les enjeux du racisme environnemental.
Il date des années 80 aux États-Unis et vient du révérend Benjamin Chavis, leader de la NAACP. Il est le coordinateur du premier rapport documentant la surexposition des Noirs et des Hispaniques aux déchets toxiques. Pour Slate, c'est l'idée que les Afro-Américains et les autres minorités ethniques se retrouvent de manière disproportionnée à vivre dans des endroits où l'eau, l'air et la terre sont tellement pollués que cela représente un danger sanitaire. Alors pourquoi est-ce qu'on en parle aux États-Unis ? Les minorités ethniques représentent 69% de la population dans les quartiers américains, qui vivent près de décharges de déchets toxiques. Et elles sont en moyenne exposées à des taux de dioxyde d'azote 38% plus élevés que les blancs. Le dioxyde d'azote est un polluant produit notamment par les voitures et certaines usines. Il a été lié à l'asthme et aux crises cardiaques. Pourtant, dès 1994, Bill Clinton a tenté de faire de la justice environnementale un objectif, mais en vain. En 2005, lorsque l'ouragan Katrina dévaste la Nouvelle-Orléans, la communauté afro-américaine estime que le gouvernement aurait été plus rapide à intervenir si les populations touchées étaient principalement blanches.
On n'a pas ça, nous, en France.
Alors oui, en France, on a du mal à parler de racisme environnemental. De rares études sur le sujet ont été faites par Lucie Lorient, professeure en aménagement urbain. Celle-ci date de 2012. Elle estime qu'en France, chaque pourcentage supplémentaire de la population d'une ville née à l'étranger augmente de 29% les chances pour qu'un incinérateur à déchets soit installé. Dans son livre, le sociologue Rasmik Cheyenne parle aussi de cas de saturnisme en France. D'après lui,
il y a donc de toute évidence une géographie sociale et raciale de l'épidémie qui suit les contours des quartiers populaires et des populations les plus précaires.
Dans les Yvelines, en 2019, 17 enfants roms ayant vécu dans un bidonville avaient des taux de plomb supérieurs à 25 microgrammes par litre de sang. L'ARS a fini par faire évacuer le campement. Les communautés des gens du voyage sont aussi victimes de racisme environnemental. William Acker a fait une étude sur l'emplacement des aires d'accueil. Il démontre que la très grande majorité des aires sont situées dans des zones dégradées ou de plus en plus impactées par les tempêtes et orages violents ou à proximité de pollution industrielle. En France, les bidonvilles tolérés sont souvent dans des zones très polluées. On a parlé des populations roms, mais on peut aussi compter les exilés. Par exemple, la jungle de Calais en a accueilli jusqu'à 9000 avant d'être démantelée en 2016. Elle est située en zone Céveso. ce qui veut dire qu'il y a des substances dangereuses à proximité. Et puis évidemment, il y a les territoires ultramarins. On y trouve 80% de la biodiversité nationale, les inégalités sont encore plus fortes qu'en France hexagonale. Conséquence de l'exploitation des plantations, de la colonisation et de l'esclavage pour beaucoup d'activistes et d'intellectuels. Et pourtant, on continue de vouloir exploiter ces terres contre l'avis de la population, comme c'est le cas de l'énorme projet minier Espérance en Guyane. Il est porté par la compagnie minière états-unienne Newmont et un opérateur local, la compagnie minière Espérance. Il y a aussi le scandale du chlordécone, utilisé aux Antilles contre l'avis de scientifiques et malgré son interdiction aux États-Unis. Dit CLD pour les intimes, on l'a utilisé dans les bananeraies de 1972 à 1993. Conséquence, on a contaminé les terres agricoles de la Martinique et de la Guadeloupe de 60 ans à plusieurs siècles. On retrouve du CLD un peu partout. Les sols, les mangroves, les eaux côtières, certaines denrées, etc. Et évidemment, ce n'est pas bon pour la santé. Risque de naissance prématurée, atteinte du développement cognitif et moteur chez les enfants, favorise la survenue et la récidive du cancer de la prostate. En 2006, des plaintes ont été déposées et on attend toujours le jugement. Ah, et petite précision. Plus de 90% des bananes produites avec le CLD ont été consommées par des Français et Françaises de l'Hexagone. Je vous ai saoulé, hein? Alors pourquoi on en parle aujourd'hui? D'abord parce qu'on parle beaucoup d'urgence climatique, mais jusqu'à présent, tous ces grands mouvements et associations sont quand même très blancs. Le sociologue Rasmus Kecheyan a même écrit
« La couleur de l'écologie n'est pas le vert, mais le blanc ».
Le Front de mer, fondé par Fatima Wasak, est le premier syndicat de parents des quartiers populaires qui porte des combats écologistes. Et en 2020, on a pu observer des appels à la convergence des luttes. Des rapprochements entre la génération Adama et la génération climat, comme dit Mediapart. C'est le cas en France, mais aussi aux États-Unis. Et tout ça, ça a un nom. L'intersectionnalité. Si on parle d'écologie, on a besoin de parler de capitalisme, d'inégalité, de rapports de domination, de colonisation, de rapports nord-sud, de race, de genre et de nature.
Et cette quête de justice implique de démonter tous les discours nauséabonds et les politiques discriminatoires. Alors bien entendu, cette lutte se heurte aux idées obtuses de l'extrême droite pour qui la justice et l'égalité, ce sont des concepts folkloriques à éliminer. Plus subtil, mais aussi plus pernicieux, il y a un nouveau discours écologiste d'extrême droite qui s'appuie sur l'idée que l'équilibre d'un écosystème est perturbé et menacé par les migrants, les étrangers, les personnes qui nous envahissent et qui entraînent des bouleversements de notre environnement. C'est le chercheur Pierre Madelin, au micro de Hugo Paletta, dans son podcast « Minuit dans le siècle », qui nous éclaire sur un concept en vogue dans les milieux d'extrême droite, la capacité de charge.
On va plonger un petit peu dans l'histoire de la pensée écologiste nord-américaine. À la fin du 19e siècle, aux États-Unis naît un concept, on va dire, qui est le concept de capacité de charge. C'est un concept au début qui est utilisé dans la marine marchande pour estimer la quantité X d'objets ou de marchandises que peut supporter un bateau Y, par exemple. Petit à petit, ce concept il va s'étendre et il va être utilisé pour évaluer la quantité de bétail que peut supporter un écosystème donné, une prairie, un pâturage donné, pour qu'il n'y ait pas justement de surpâturage. Puis petit à petit, il va passer non plus seulement dans la gestion du pâturage, mais dans la gestion de la faune sauvage, avec l'idée que dans tout écosystème, il y a des limites à la ponction des ressources par une espèce donnée, dans des conditions climatiques météorologiques données, et que donc il faut faire attention préserver les mécanismes de régulation naturelle des populations, par exemple des populations d'ongulés, pour qu'elles ne dévorent pas tout leur pâturage et puis s'effondrent en conséquence après avoir opéré une ponction excessive sur leurs ressources. Et puis petit à petit, dernier avatar, on va dire, de cette histoire, le concept de capacité de charge va être transféré aux populations humaines. Et il va y avoir l'idée que, et puis il va être étendu à des échelles qui ne seront plus cette fois-ci seulement les échelles d'un écosystème local, mais d'une nation, voire de la planète dans son entier. Et cette fois-ci, ce qui va se passer, c'est que c'est la capacité de charge de la planète dans son entier qui va être considérée comme menacée par une croissance démographique excessive de la population humaine. Donc, c'est ce qu'on a appelé historiquement le néo-malthusianisme vert ou le néo-malthusianisme écologique. Alors, le néo-malthusianisme vert n'est pas nécessairement une idéologie raciste. Certains néo-malthusiens ont même été antiracistes. Ils parlent parfois de population surnuméraire, mais sans nécessairement viser la croissance démographique spécifique d'un groupe racisé, d'un groupe du Sud. Sauf qu'à l'intérieur, dans l'orbe, on va dire, de ce néo-malthusianisme vert qui se met en place aux États-Unis à partir des années 40, 50, 60, avec des figures comme Wilhelm Vogt, comme Fairfield Osborne, comme le très célèbre Paul Ehrlich, va naître un discours qui va avoir tendance quand même à insister lourdement sur la croissance démographique dans les pays du Sud, et petit à petit, à aller même encore au-delà et à dire, en fait, le véritable problème, ce sont ces populations immigrées qui viennent chez nous avec des habitus reproductifs qui ne sont plus les nôtres, qui vont donc se reproduire plus que nous ne nous reproduisons nous-mêmes, et qui en plus, en venant chez nous, vont adopter un mode de vie qui va être beaucoup plus destructeur au niveau écologique, puisque comme nous le savons très bien, le nôtre n'est pas soutenable. Or, c'est précisément ce mode de vie qu'elles viennent chercher chez nous. Donc, la principale menace qui pèse sur nos écosystèmes et, à l'échelle globale, sur la biodiversité et sur le réchauffement climatique, ou si ce n'est la principale, en tout cas une menace qu'il faut prendre très au sérieux, ce sont ces « hordes » entre guillemets d'immigrés qui viennent chez nous pour consommer des ressources et émettre des gaz à effet de serre.
Donc quand on suit cette idée, défendre la nature, ça revient à la défendre contre ceux qui viennent de l'extérieur pour la détruire. C'est un principe qui vient faire écho à toutes les vieilles idées nationalistes réactionnaires. Je pense à cette fameuse expression « le français de souche » qui est toujours prise au sérieux par certains. Un français de souche qui a poussé là, dans le terroir français, comme un élément naturel. Il est un peu comme un chêne, il est fier d'être là et personne ne songerait à l'éradiquer. Ce qu'il fait, ça ne compte pas. Il est légitime de fait puisqu'il pousse ici. Ses parents ont poussé là avant lui et parmi tous les glands, il y a lui, Robert Dupont, le français de souche. Le souci, c'est que Robert Dupont n'est pas forcément fondamentalement écolo. Parfois, Robert passe sa vie à arroser ses terres de Roundup. Il fait ses courses chez Carrefour, il part en vacances en Thaïlande. Bref, quand il ne va pas polluer le reste du monde, il détruit l'écosystème qu'il a vu pousser au milieu de tous les autres glands qui constituent les Français de souche. Et ensemble, ils accusent ceux qui arrivent, portés par le vent comme les pissenlits, de prendre trop de place et de piller leurs ressources vitales. Pardon. L'exemple est un peu grossier, mais on va reprendre en apportant un peu de nuance. Robert Dupont grandit, comme nous tous, à la fin du XXe siècle. Il n'a pas connu la guerre, la société qui le voit grandir est prospère grâce aux anciennes colonies dont on pille encore les ressources. Robert Dupont bosse, il bosse comme un fou pour payer sa maison, il a envie que sa réussite permette à ses enfants de vivre, il n'est pas raciste a priori, en fait, il s'en fout. Mais comme nous tous, il sent que l'âge d'or prend fin. Les banques n'accordent plus de crédit, le panier de courses coûte un bras. Bref, Robert Dupont découvre la galère. Il redouble d'efforts pour que son potager lui permette de se nourrir. Il éteint la lumière en sortant de la pièce, il trie ses déchets, il fait des efforts pour que son mode de vie soit plus sobre, ça coûte moins cher et ça permettra peut-être de sauver l'environnement. Et en même temps, à la télé, dans les journaux et sur internet, il voit les migrants qui fuient la guerre ou la famine qui arrivent en Europe. Ils ne sont pas si nombreux en vérité, mais le discours est anxiogène. L'étranger, c'est le danger. Alors, Robert a peur. Il a peur qu'on pille son potager, que les étrangers allument trop la lumière et qu'ils jettent leurs déchets dans les rivières. Il reste écologiste, mais il devient nationaliste. Ce petit portrait un peu simpliste de Robert Dupont, c'est pour nous amener à un nouveau constat, c'est que l'écologie est un concept très relatif et qui peut être sujet à tout type de récupération. Quand un discours écologiste abandonne les idées égalitaires, quand il oublie de prôner le droit universel des humains et des humaines à disposer d'un environnement vivable, quand il amalgame le droit du sol et la préservation des espèces, il est susceptible d'être récupéré très facilement par les extrêmes droites. Les exemples sont aussi variés qu'instructifs à ce sujet. Le chercheur Antoine Dubiot tente de définir ce qu'il appelle le risque de fascisation de l'écologie. Et pour illustrer son propos, il parle de l'exemple de la collapsologie, la science de l'effondrement.
La collapsologie, c'est donc une théorie qui dit qu'il va y avoir un effondrement de la civilisation dite thermo-industrielle. Civilisation thermo-industrielle, ça veut dire une civilisation fondée essentiellement sur des critères matériels, sur des infrastructures, sur des réseaux de transport, des réseaux alimentaires, industriels, de santé publique, etc. qu'on appelle ça effondrement ou pas, en tout cas, c'est cette conception-là de la civilisation qui domine chez les écologistes. Et quand on parle d'effondrement ou de fin du monde, c'est plutôt pour parler de ces infrastructures-là. Mais dans l'espace public, quand les théories de la collapsologie ont été promues, il a souvent été question d'effondrement de la civilisation tout court, sans préciser thermo-industriel. Je doute pas que les auteurs pensaient à ça. Simplement, en fait, parler de civilisation dans l'espace public, ça me semble assez dangereux parce que le principal, la principale figure publique qui parle de civilisation dans l'espace public, c'est Éric Zemmour. Mais c'est dans un sens très différent. C'est dans un sens racial, culturel, identitaire. C'est pas du tout dans le sens matériel. Mais il y a quand même une confusion. Et à mon sens, le risque, c'est d'alimenter via l'écologie les angoisses racistes d'une partie de la population et de leur donner une nouvelle justification, pas une nouvelle justification, mais disons une justification encore en plus de celle qu'ils se cherchaient déjà pour défendre leur projet de société raciste. Du coup, c'est pas vraiment, on peut pas dire que c'est vraiment la faute des auteurs collapso, etc., cette réappropriation-là, qui est en plus qui est assez marginale, hein, qui est une réappropriation marginale de la collapsologie. Simplement, en fait, le concept de civilisation, il est toujours un petit peu compliqué, en fait, et donc c'est aussi un risque auquel on aurait pu s'attendre. Voilà. Donc, la fascisation de l'écologie en matière de collapsologie, à mon avis, elle est plutôt dans la réception publique de ces thèses que dans la manière dont elles ont été construites, etc., directement. Par contre, on peut noter que les figures de la collapsologie ont des trajectoires quand même très variées les unes des autres. Il y en a certains qui sont allés dans des approches très spirituelles de l'écologie, d'autres qui sont largement politisés. Donc voilà, c'est un mouvement compliqué à appréhender. Mais en tout cas, ce qu'on oublie parfois, c'est justement cette réappropriation possible par une extrême droite inquiétée de la disparition de la civilisation occidentale.
Il est donc urgent pour les luttes écologistes de se positionner clairement sur l'échiquier politique. Selon nous, antifascistes, l'écologie doit être ouvertement anticapitaliste et absolument inclusive. Anticapitaliste parce qu'on part du principe que c'est le mode de production capitaliste qui est à la source de la grosse majorité de nos problèmes environnementaux. L'accaparement des sols et des ressources, la bétonisation, la spéculation, la pollution massive de l'air, de la terre et de l'eau. Une écologie antifasciste doit être inclusive, c'est-à-dire qu'elle doit revendiquer un droit universel à vivre dans un environnement sain, sans distinction de territoire, d'ethnie, de genre ou même d'espèce. Les destins de toutes les espèces vivantes sont liés, qu'ils soient humains ou non humains, animaux, végétaux. La pollution du Gange ou la déforestation en Amazonie influence nécessairement l'équilibre écologique de l'ensemble de notre planète. Donc, faute de se revendiquer universaliste et anticapitaliste, l'écologie n'est que du jardinage. Et le jardinage, comme loisir ou comme passion, ça se pratique très bien chez les fachos. Souvenez-vous de ma petite histoire de Robert Dupont. On a un autre exemple, très proche de nous, de mouvement écolo, qui est souvent accusé d'être tout à fait compatible avec les idées réactionnaires, c'est celui du mouvement des colibris et la permaculture dans un sens plus large. Alors vous connaissez tous la fable soi-disant amérindienne du colibri qui fait sa part face à l'incendie en allant verser ses trois petites gouttes d'eau sur les flammes. L'histoire est devenue le credo de tout le mouvement qui a été initié par Pierre Rabhi, et pourtant moi quand j'entends l'histoire, je me dis surtout que l'incendie n'est pas du tout altéré par l'intervention du colibri, et que donc le colibri cramera, comme tout le monde. Donc quand Pierre Rabhi ou ses adeptes visent la sobriété heureuse, on va bien sûr dans une direction écologiquement souhaitable. Mais à défaut d'un positionnement politique clair, leur mouvement ne sauvera personne. En effet, si on n'identifie pas clairement la cause d'un mal, on ne peut pas espérer la guérir. Les colibris, eux aussi, font du jardinage. D'ailleurs, les accointances de Pierre Rabhi avec des grands patrons de multinationales sont assez claires. Selon Rabhi, il n'y a pas de paradoxe, et pour les grands patrons, il n'y a pas de danger. J'ai pris le temps d'écouter les conférences d'un autre colibri, c'est Louis Fouché, le médecin philosophe complotiste, qui a gagné la sympathie des uns par ses discours anti-vax pendant l'épidémie du Covid, et la sympathie des autres par des jolis discours sur la permaculture humaine. Donc mon constat principal, après avoir écouté ces conférences, c'est que le propos de Louis Fouché est au mieux creux et au pire mystique. Il ne prend position que contre les GAFAM, qui incarnent l'ordre libéral technocrate dégénéré. Il tient un discours contre les élites, qui n'est pas sans rappeler le populisme de bas étage du FN, mais il ne parle jamais de lutte, d'oppression ou d'émancipation. Ses élucubrations sur la permaculture humaine sont parfaitement compatibles avec les théories du racisme culturel ou avec le patriarcat, puisque dans l'état de nature, chacun doit trouver sa juste place. Louis Fouché ne développe pas d'arguments, mais il est exalté. Et quand on cherche un peu, on réalise que par ailleurs, il est opposé à l'IVG, il est proche des idées de la bourgeoisie catho la plus conservatrice. Chez Fouché, comme chez Rabi, les frontières affinitaires sont floues. Je vous lis un extrait d'un excellent article paru sur le site cairn.info qui résume le problème que ça pose.
La réussite commerciale, éditoriale et médiatique de Pierre Rabhi se fonde sur l'influence d'un discours qui séduit une nuée de personnes d'ordinaire non militantes et peu politisées. À la différence des partis écologistes et des ONG de défense de l'environnement, il martèle que la préservation de la terre-mère est un enjeu moral et spirituel. Cette synthèse particulière entre écologie, morale et transcendance lui ouvre des esprits fermés à la rhétorique anticapitaliste. Alors que la gauche traditionnelle, qu'elle soit institutionnelle ou mouvementiste, reste obnubilée par le cadre collectif, il innove. Il s'adresse à l'individu. Il lui affirme qu'il a sa place et son rôle à jouer. Il l'accueille et le bichonne. Mais cette approche a ses limites. En recouvrant les clivages politiques, Pierre Rabhi et les associations qui l'entourent rompent avec une filiation de lutte dans laquelle ils auraient pu s'inscrire. La décolonisation, le mouvement antinucléaire, le féminisme. Rabhi rend pourtant hommage aux femmes, en particulier du Sud, dans tous ses livres. En alimentant l'idée qu'il existe des solutions locales à l'effondrement de l'écosystème et que la crise écologique peut se résoudre par l'ingéniosité humaine et la bonne volonté personnelle, il efface l'importance des mécanismes de domination. De classe, de race, de genre. Dans ces conditions, même avec la meilleure intention du monde, comment ne pas servir le statu quo en laissant les riches rester riches et polluer la planète? La notion d'injustice sociale n'apparaît presque jamais dans son discours. L'exploitation des travailleurs précaires non plus, alors qu'ils sont pourtant les premières victimes de l'exposition aux matières dangereuses pour la santé sur leur lieu de travail. Dans la galaxie Rabhi, on lutte contre soi-même et ses propres aliénations, mais pas frontalement contre les 1%. Un peu plus loin, à force de refuser les clivages idéologiques et les oppositions de principe avec les autres acteurs du champ politique, la galaxie Rabhi se rend plus vulnérable que d'autres aux tentatives d'intrusion et de récupération de mouvements nationalistes et réactionnaires en quête de crédibilité alternative.
Voilà, voilà. Bon, pour clore ce chapitre sur les colibris et sur le jardinage, je vous invite à lire la jolie BD « Les colibris pyromanes ». Ça a été publié par le collectif Chômeuse Go On. Vous pouvez le trouver à droite à gauche dans les endroits militants, surtout à gauche. Dans l'histoire des colibris pyromanes, le colibri prend une petite braise de l'incendie et il l'utilise pour mettre le feu à la bagnole des deux technocrates qui ont déclenché volontairement le feu de forêt. Cette émission touche à sa fin pour aujourd'hui. Si vous souhaitez approfondir un peu ces notions d'écofascisme, de racisme environnemental, de récupération des idées écologistes par les mouvements d'extrême droite, je vous invite notamment à écouter les deux entretiens menés par Hugo Paletta sur le sujet dans son podcast « Minuit dans le siècle », des entretiens menés avec Pierre Madelin et avec Paul Guilibert. Je vous invite également à lire le livre de Antoine Dubiot, qu'on a entendu un peu plus tôt dans l'émission. Le livre s'appelle « Écofascisme » et il est suivi d'un autre texte intitulé « L'écologie n'est pas apolitique ». Vous êtes toujours à l'écoute de Fréquence 7. Passez une excellente fin de semaine. N'oubliez pas que vous retrouverez cette émission en podcast sur le site de la radio. Allez, salut à toi, salut à vous, vive l'écologie, longue vie à la vie et à mort la haine. You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in four parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance.